RCF.
Et toute cette semaine, nous sommes avec Lazare et avec Benoît Cinetti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes en mission à Lille. Et nous nous penchons dans votre récit qui s'appelle Lazare le Ravi. Nous essayons de suivre un peu ce récit imaginaire dans lequel vous nous plongez, qui nous aide à comprendre au fond ce qu'est la résurrection. Alors Lazare le Ravi, il est ravi de quoi ? Il est ravi.
Bon, alors soyons clairs. Évidemment, il y a cette espèce d'ambiguïté entretenue par le titre, parce que Lazare est réputé être vraiment mort, en tout cas mort définitivement, si je puis dire, à Marseille. Donc c'est le ravi, ça peut évidemment évoquer ce côté provençal du personnage de la crèche, voilà, bien coutumier de nombre d'entre nous. Mais non, si on a choisi ce titre, le ravi, c'est parce qu'il a été ravi à la mort par Jésus, voilà. Donc Lazare est celui qui fait l'expérience qu'il est ravi aux ténèbres et aux profondeurs de la mort par celui qui l'en sauve.
Lazare, alors, c'est aussi celui qui découvre que le monde qu'il fréquentait, les envies, les aspirations qu'il avait autrefois n'étaient peut-être que des illusions, en tout cas en partie. Et il découvre avec cette rencontre avec le Christ qu'il y a un monde où la gratuité est possible. Qu'est-ce que ça vient bouleverser chez lui ?
Ben, ça bouleverse en fait tout ce dans quoi il a été construit, c'est-à-dire qu'il a été construit humainement, religieusement, intellectuellement, comme chaque être humain, c'est-à-dire il y a une logique de rétribution, c'est-à-dire que en fait je reçois en fonction de ce que j'ai produit, de ce que j'ai donné, de ce que j'ai offert de moi-même, voilà. Recevoir totalement gratuitement, en fait c'est une expérience que nous ne faisons pas nous-mêmes, c'est-à-dire que nous savons bien que tout don, aussi généreux soit-il, que nous puissions faire, est toujours source d'un retour.
C'est difficile d'échapper. Ouais.
C'est impossible. Et il faut l'accepter. Moi, je vois des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, en fait, ce qui est terrible, c'est que quand je fais du bien, ça me fait plaisir. Donc, j'ai honte d'avoir du bien à faire du bien. Ouais. » Ben, non, en fait, c'est comme ça. C'est notre nature qui est ainsi. C'est-à-dire que le bien provoque le bien. C'est-à-dire que, et c'est normal. Hein. La conséquence du bien, c'est que ça fait du bien à celui qui en fait, souvent, en tout cas. Ouais. Et c'est heureux. Et c'est normal. Sinon, ça ne serait pas du bien. Enfin, vous voyez, il y a un moment donné où il faut, faut être logique aussi avec les mots qu'on emploie. Alors que Lazare, avec Jésus, il fait l'expérience d'une gratuité totale. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour Jésus, il n'est rien a priori pour Jésus, et il ne comprend pas comment, aux yeux de Jésus, il peut être devenu à ce point important. Voilà. Vous savez, c'est intéressant. Je vois dans la paroisse, par exemple, les personnes paroissiens qui sont très dévouées auprès des familles en deuil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend de ces familles en deuil quand le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille sont morts? Bon, c'est un désarroi total pour les gens, surtout quand dans des familles où il n'y a pas du tout la foi. Donc les gens sont paumés et ils disent ben, « la grand-mère, elle voulait quand même être enterrée à l'église, donc on va aller frapper à la porte de la paroisse ». Et là, ils rencontrent des paroissiens, des gens comme eux, absolument comme eux, qui croiseraient dans la rue, qui sont leurs voisins de palier, qui vont à la même boulangerie, et qui disent ben, « en fait, on est disponible pour vous aider ». Et on est disponible vraiment, c'est-à-dire que voilà nos numéros de portable, on se verra à l'heure que vous verrez, le jour que vous voudrez, et puis si vous voulez nous appeler pour préciser des choses, faites-le sans problème, et puis on sera là aux obsèques pour veiller à ce que tout se passe bien. Et les gens, ils sont bouleversés, ils disent, mais ces gens, en fait, et en plus on ne les paye pas. Ils disent, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gentils avec nous? On ne leur a rien fait. Voilà, cette gratuité-là. Et Lazare, il fait cette expérience de la gratuité qui est la gratuité divine, c'est de l'amour qui se donne sans aucune raison. Sans aucune raison. Et ça bouleverse sa vie. Alors, d'un premier temps, il a du mal à l'accepter, c'est-à-dire qu'il la refuse parce que c'est trop quelque part. Et puis il dit, puis j'en ai pas besoin. Il est fier, j'en ai pas besoin, je m'en tirerai tout seul. Voilà. Et puis il y a cette bouchée de pain en fait qu'il refuse de prendre à la multiplication des pains où je le mets dans les proches de Jésus.
Il
assiste à ça. Ouais, donc il s'en va parce que c'est trop pour lui. C'est pas de prodigalité invraisemblable devant cette foule où il y a personne d'intéressant à ses yeux. C'est une foule. Une foule, ça n'a aucun intérêt. Une foule, c'est rien. C'est une masse de gens. Mmh. C'est rien. Ça ressemble à rien. Et il dit, mais comment est-ce que Jésus peut avoir cette prodigalité envers ces gens qui ne sont rien pour lui? Voilà. Et c'est trop compliqué, c'est trop vertigineux. Et il faudra qu'il fasse l'expérience à plusieurs reprises de cette main tendue avant d'accepter de la saisir. Et il faudra qu'il aille jusqu'au tombeau, en fait, pour comprendre que cette main tendue, elle n'exige rien d'autre de lui sinon d'accepter cet amour qui se donne.
C'est intéressant que vous parliez de la masse et puis de Jésus, parce que ce que va vivre Lazare, c'est de compter pour quelqu'un et de compter presque plus que tout. Et paradoxalement, quand il sort du tombeau, il s'étonne que voilà, le monde poursuit son chemin, alors qu'il a découvert qu'il pouvait être le plus important et le plus aimé, une expérience qu'il n'avait jamais faite avant.
Alors, il va falloir qu'il... En fait, tout la deuxième conversion de Lazare, c'est de comprendre que il n'est pas le plus aimé, mais qu'il est aimé au maximum comme tous les autres. Et donc, l'expérience qu'il fait en sortant du tombeau, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi Jésus ne manifeste pas aux yeux de tous qu'il est lui, non pas l'ami, mais le préféré. Parce qu'en fait, il est le seul à avoir été réveillé de la mort. Donc, ça en fait quand même un personnage. Oui. Et on imagine bien que les gens devaient le regarder avec une certaine curiosité. C'est quand même pas rien, si vous voulez. On n'a jamais rencontré quelqu'un qu'on a enterré dans un tombeau depuis 4 jours et qui en sort debout. Voilà. Et donc, c'est quand même une vraie curiosité. Alors, il se dit, mais quand même, si Jésus a fait ça pour moi, c'est que je représente quand même à ses yeux un peu plus que tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont morts. Et il ne les a pas tirés du tombeau. C'est donc que peut-être que j'ai un peu plus de mérite que les autres. Voilà. La tentation, elle est là, mais d'ailleurs pour le chrétien. D'ailleurs, on le voit bien. Moi, j'ai été chrétien, comme chacun d'entre nous, par le baptême. J'étais baptisé à 17 jours. Je n'avais rien fait pour être baptisé. C'est mes parents qui ont voulu ça. Bon. Mais ça ne, donne pas, ça ne me donne pas une supériorité dans l'amour de Dieu sur les autres.
Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet amour, en fait?
Ah ben, c'est toute la question. Et en fait, c'est la responsabilité. C'est que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement de l'Évangile. Nous, quand on reçoit gratuitement, on voudrait... on estime que ça nous donne une valeur supérieure aux autres. Pas du tout. Tu as reçu gratuitement pour pouvoir donner ce que tu as reçu. En fait, le mouvement par lequel on reçoit de Dieu cet amour, c'est un mouvement qui ne peut pas s'arrêter à nous. C'est un mouvement qui passe à travers nous. Et donc, il faut qu'on accepte d'être le canal de cet amour que Dieu a pour l'humanité et qui passe à travers nous pour se communiquer aux autres. Sinon, encore une fois, on ferme les vannes de l'amour. Et on s'étonne que les gens autour de nous ne vivent pas de cet amour. On dit quand même, ils pourraient bien vivre de cet amour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils en vivent de cet amour?
On laissera les auditeurs répondre à cette question. Mais en tout cas, vous évoquez le fait que Lazare soit saisi par le Christ. Alors dans votre récit, il est véritablement saisi par la main. Le Christ l'attrape alors qu'à ce moment-là, Lazare n'est plus grand-chose. Il a traîné dans les rues, il a vécu la parabole du fils prodigue. Et... il a cette question, le Christ, que veux-tu être maintenant? À laquelle Lazare répond, je veux vivre. Et pour vivre, on comprend dans votre récit qu'il doit se débarrasser de ses habitudes, en tout cas de certaines habitudes. Est-ce que rencontrer Jésus, c'est, comme vous le dites à un moment dans le livre, quitter le train de vie d'avant pour pouvoir se débarrasser de ce qui peut être parfois embarrassant, justement?
Mais Jésus, c'est lui qui nous ramène au réel le plus vrai. Et donc, il vient nous rencontrer dans notre réalité. C'est-à-dire, là encore, si vous voulez, c'est très, très impressionnant de se rendre compte que le Christ ne nous invite pas à le rencontrer en dehors du monde dans lequel on est. Il nous invite à le rencontrer là où on est. Et il vient d'ailleurs à notre rencontre, là où nous sommes, tel que nous sommes. Voilà. C'est ça qui est phénoménal, en fait. Parce que le Christ veut nous inscrire dans le réel. Voilà. Il dit, c'est ce réel-là que tu as à aimer. C'est dans ce réel-là que tu as à annoncer, à témoigner et à porter mon amour.
Est-ce qu'on ne se méprend pas un peu au départ lorsque l'on découvre qu'effectivement le Christ nous attend et qu'il peut faire de notre vie quelque chose? On voudrait justement, peut-être, on aspire souvent peut-être à autre chose que sa propre vie.
Ah ben bien sûr, mais c'est tout à fait naturel parce que nous, on est, l'homme ne cesse de rêver. Alors il faut rêver et c'est très important de rêver. La différence, c'est de ne pas fantasmer. Voilà. Rêver de pouvoir changer le monde. C'est très bon, c'est très bon. Fantasmer un autre monde, c'est très mauvais. Rêver d'être dans le monde un artisan des changements pour le meilleur, c'est magnifique. Mais fantasmer de vivre une vie qui n'existe pas dans un monde qui n'existe pas, c'est mortifère, vous voyez. Et quand on voit, il y a des grandes figures de sainteté, prenez par exemple Ignace de Loyola. on connaît bien les récits de sa conversion, ce jeune homme qui rêvait d'exploits militaires et qui fantasmait même, peut-être, dit-on, épouser l'infante d'Espagne. Il se rêvait une carrière glorieuse. Bon, très bien, il avait les rêves de son temps, voilà, et de son rang, si je puis dire. Mmh. Et puis il est blessé, et puis sa convalescence des longs mois, il se met à lire et il lit des romans de chevalerie. Et donc il rêve d'être à nouveau un chevalier. Puis il va lire des romans, enfin des livres de saints. Et il rêve d'être un saint comme Dominique, comme François d'Assise. Et puis un jour, il comprend que ce que Dieu attend de lui, c'est pas qu'il soit un grand chevalier. C'est pas qu'il soit le clone de saint François ou de saint Dominique, c'est qu'il soit Ignace, tout simplement. Soit Ignace. Voilà.
Mais vous êtes amené vous-même à rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui se posent cette question de que faire pour Dieu. Comment leur répondre qu'ils vont trouver cette réponse? Ils sauront un jour ce qu'il faut faire.
Mais en fait, la question, c'est pas tellement que faire pour Dieu, c'est comment laisser Dieu agir en moi. En fait, si vous voulez, on n'est pas, Dieu n'attend pas de nous une rétribution de sa bonté. Voyez, il attend de nous que nous lui, en fait, il attend de nous que nous lui ouvrions notre vie pour qu'il puisse vivre en nous et déployer en nous sa vie. Voilà. Et c'est là tout l'enjeu. Voilà. Et donc, en laissant Dieu déployer sa vie en nous, ça déploie notre propre vie. Évidemment, ça ne l'étouffe pas, ça la transfigure, ça l'élargit, ça la dilate. Voyez, on a l'impression que, et c'est pour ça souvent qu'on préfère faire des choses pour Dieu, parce que c'est moins compromettant et c'est moins inquiétant. Puis on peut circonscrire ça, on dit il y a un temps où je fais des choses pour Dieu, puis il y a un temps où je fais des choses pour moi, voilà, ou pour d'autres, voilà. Et alors que, et c'est pas ça la réalité de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est laisser Dieu vivre en moi, voilà. Pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi.
Merci Père Benoît de Cinetti,
merci à vous.
On vous retrouve demain.